Frédéric Saïs, vous revenez avec nous pour évoquer ce débat en compagnie de nos deux invités, Véronique Naoum-Grapp, qui est anthropologue, et Laurent Bouvet, qui est politologue. Et effectivement, comme vous l'avez noté, Frédéric Saïs, le général de Gaulle était très présent dans le débat d'hier soir. Il a été très présent pendant cette campagne, ce qui est quand même étonnant, parce que fut un temps où il y avait des anti-gaullistes, et le fait qu'il y ait aujourd'hui une sorte de consensus apparent entre deux candidats très éloignés, Véronique Naoum-Grapp.
Oui, c'est assez. On a l'impression qu'il y a une vraie recherche de, comment dire, d'une filiation au moment où on peut dire qu'il y a une espèce d'amnésie générale de l'histoire du XXe siècle en réalité. Donc une filiation d'un patriarcal, voilà, qui légitimerait, etc. Et c'est une vision de l'identité nationale un peu quand ils disent les Français, on a l'impression d'une horde de fantômes qui sont en train de vagir en demandant papa où es-tu, etc. Les Français, le général de Gaulle, c'est prendre vraiment les téléspectateurs pour comme ça pour de simples miroirs béants. Moi, je suis tout à fait contre cette espèce de d'appel à l'identité française, se souvenant des grands ancêtres.
Non. Laurent Bouvet, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'anti-gaullistes. Il y a eu François Mitterrand avec le coup d'État permanent, Jean-François Revel qui ensuite est devenu une icône pour la droite française. Et donc on n'a pas manqué d'anti-gaullistes. Comment cela se fait-il qu'il y ait aujourd'hui un appel incessant à cet homme ?
Plus on s'éloigne de la période gaulliste, de la mort du général de Gaulle, plus on voit les différentes familles politiques françaises se rallier à son panache. On a vu pendant cette campagne, à la fois Jean-Luc Mélenchon citait le général de Gaulle dans ses discours, donc qui représente la partie gauche de la gauche, disons, évidemment les candidats centraux du bloc central, et puis Marine Le Pen qui, sous l'influence notamment de son second Florian Philippot, venu de la partie un peu souverainiste de l'échiquier, a fait changer quand même radicalement d'orientation le Front National ces dernières années. On se rappelle que le Front National est l'héritier d'une famille extrêmement gaulliste, puisque au sein du parti créé par Jean-Marie Le Pen au début des années 70, il y avait même des gens, bon, l'Algérie française bien sûr, Vichy, et puis même des gens qui venaient de l'OAS, dont on se rappelle qu'ils n'avaient pas été spécialement sympathiques avec le général de Gaulle jusqu'à l'attentat du petit Clamart, bien évidemment. Mais on voit Florian Philippot aller tous les ans fleurir la tombe du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises. On voit des références à l'indépendance telles que ça a été rappelé par Marine Le Pen dans le petit extrait que vous avez diffusé. Donc, toutes les familles françaises, de la gauche à la droite, pour dire les choses gentiment, aujourd'hui se sont ralliées au panache du général de Gaulle. Et comme le général de Gaulle était ni droite ni gauche, pour reprendre une thématique bien en cours chez les deux candidats qu'on avait hier sur le plateau, à la fois ni droite ni gauche Marine Le Pen et de droite et de gauche Emmanuel Macron, selon leur propre dire, on voit bien que c'est une figure qui apparaît comme une figure au-dessus de la mêlée de rassemblement, même si le général de Gaulle a fait une politique très particulière à un moment donné quand il était président de la République, mais on voit bien que c'est une figure qui permet à des candidats qui veulent dépasser les partis, qui veulent ou en finir avec la Ve République, mais dans ses aspects partisans, pas dans la Constitution, et c'est là l'ambiguïté par exemple aussi d'un Jean-Luc Mélenchon qui cite le général de Gaulle et qui voulait faire passer le bébé constitutionnel avec l'eau du bain. Donc, mais là on voit bien, ni droite ni gauche, au-delà de la droite et de la gauche, le général de Gaulle sert un propos politique aussi qui est un propos qui se diffuse dans l'ensemble du spectre politique.
Ce qui était quand même pas gagné, parce que si on se souvient d'un pamphlet qu'avait fait Jean-François Revel sur le style du général où il accablait le général de Gaulle d'un certain nombre d'invectives, disant qu'il ne savait pas écrire, que c'était un dictateur putatif, il y a eu le gaullisme immobilier. Non, ça n'est pas inutile de le rappeler pour dire que finalement ce consensus ne va pas de soi. Frédéric Saïs.
Et il y a même une autre observation au-delà du général de Gaulle, c'est la présence très très forte dans cette campagne, je trouve, de ces grandes figures de l'histoire de France. Il y a Jaurès aussi, vous avez vu.
Surtout
que Emmanuel Macron...
Surtout quand ils sont morts, évidemment.
Exactement.
Il y a
Emmanuel
la condition.
Macron qui a dit Jaurès aurait été entrepreneur il y a quelques jours, aurait favorisé l'entreprise. Le Front National avait dit Jaurès aurait voté Front National, il y a quelques temps. Alors, moi, j'ai une question à nos invités, c'est comment expliquer ce paradoxe? À la fois, c'est l'élection de tous les renouvellements, de tous les nouvelles têtes, les nouveaux visages, nouvelle époque, on a beaucoup dit dans cette élection. Et en même temps, il y a ce passé, ces figures, comme vous le disiez, décédées, qui reviennent en permanence dans le discours des candidats. Comment expliquer ce paradoxe ?
Véronique Naoum-Grapp.
Là, alors, il faudrait sans doute des recherches vraiment sociologiques. Disons qu'à un moment où la plupart des citoyens, appelons-les comme ça, citoyennes, ne sont plus dans des partis qui ont fossilisé la ligne, et il fait qu'on peut se reposer tout le temps, il est évident que toute figure qui permet de glisser d'un domaine à l'autre va être tout à fait utilisée, et évidemment on se retourne vers les grandes figures historiques qui ont été, alors pour remontant Victor Hugo, à Zola, on pourrait prendre aussi dans d'autres champs, et là tout le monde sera... Il s'agit pour le discours politique d'unir des gens discordants entre eux, différents entre eux, et pour proposer dans ce vide où on entend les interviews des gens qui disent « je ne sais pas, je ne vais pas voter, je tourne le dos ». Il s'agit maintenant de les rassembler et c'est une des tentatives et c'est assez, finalement, pourquoi pas. Disons que, de mon point de vue, évidemment, il faudrait la problématique qui serait le grand manque, à mon avis, c'est cette question des droits de l'homme qu'il faudrait politiser, non pas humanitariser et mettre de côté tout le temps, parce que les gens n'ont qu'une vie, ils le savent, d'accord, avoir un roman national, mais enfin, ils regardent la télévision, ils sont dans le monde, les Français sont dans le monde, et maintenant cet immense pan de réflexion, interdit sous prétexte que c'est de la morale, il me semble que là aussi, on pourrait mettre en œuvre Zola, Victor Hugo, Jaurès, et même le général de Gaulle pour problématiser, mais le général de Gaulle interrogé différemment, pour poser la question, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, qu'est-ce qu'il y a autour de nous et comment les tragédies nous entourent ?
Laurent Bouvet.
Oui, enfin, je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent se mêler, hein, dans ce qu'on voit dans le débat politique. Il y a à la fois l'aspect mémoriel, c'est-à-dire la transformation de l'histoire en mémoire, hein, qui est un enjeu beaucoup plus vaste de la société dans laquelle on vit. Et puis, il y a un aspect, donc chacun a ses blocs mémoriels. À gauche, c'est Jaurès, Blum, auquel on a rajouté Mendès France, Mitterrand, etc. À droite, on a d'autres filiations. Le roman national, ça vient d'être dit. Les grandes figures, on se rappelle de François Fillon citant Vercingétorix.
Oui, mais sinon, de figures de droite convoquées, si on considère que le général de Gaulle pas de droite, ce qui d'ailleurs ne va pas de soi.
Il cite rarement de Gaulle, Pinet, etc. On n'a pas la même habitude de citer des grandes figures que dans la
je sais pas, enfin,
l'héritage de la gauche.
Il y en a d'autres aussi.
Poincaré, pourquoi pas. Et éventuellement, effectivement, les grands résistants. Non, simplement, il y a donc l'enjeu mémoriel qui est beaucoup plus large dans la société, qui évidemment investit pleinement la politique. On le voit dans la campagne, hein. On n'en a pas parlé là à l'instant, mais évidemment sur déclaration de Marine Le Pen sur le Veldiv, où elle reprend la thèse gaulliste de la France était uniquement à Londres pour ne pas venir sur la thèse, évidemment, de que Jacques Chirac avait remise dans le débat sur il y a une histoire plus compliquée, etc. Mais il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est ce qu'on appelle en politique la triangulation. C'est-à-dire qu'on va chercher dans le réservoir de mémoire des autres des figures. On parlait à l'instant avec Frédéric Cesse de Jaurès pour le Front National. On a vu par exemple Emmanuel Macron très en amont avant de se déclarer candidat qui était allé à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc se réapproprier Jeanne d'Arc qui est une figure, on l'a vu le 1er mai, utilisé, manipulé par le Front National depuis des années. Donc on triangule, c'est-à-dire qu'on va chercher chez l'autre des références pour espérer faire bouger un petit peu les frontières parce qu'on est dans le dépassement des clivages droite-gauche, au moins dans la tête et dans l'esprit de ces responsables politiques innovateurs, comme vous disiez tout à l'heure.
Véronique Naoum-Grapp. Juste un point, il faudrait faire, et il faut lire le livre d'André Burrière, par exemple, l'histoire des gauches et de la dissymétrie.
Il fut invité ici même mardi.
Entre gauche et droite. D'un point de vue comme ça, il me semble que les partis de droite, depuis un siècle et demi, ont avancé en acceptant et en dévorant la surface et les personnes et les grandes figures d'idées d'une gauche classique et en les reprenant pour elles. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Donc, évidemment, cette dissymétrie fondamentale fait qu'on voit bien que la culture, au sens où elle crée des choses, où elle est contestataire, elle est du côté de la gauche.
Frédéric Saïs a dit tout à l'heure qu'il y avait trois personnes hier sur le plateau, les deux candidats et le général de Gaulle. Et il y a aussi une quatrième candidature dont on a peu parlé et dont il faut parler, c'est
c'est l'abstention, le vote nul, bref, parlez-en comme vous voudrez, avec un certain nombre d'arguments. Commençons donc par le Nini de gauche, un Nini qui considère sous différentes modalités qu'on ne peut pas choisir, qu'il ne faut pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec notamment une thèse qui a été résumée, par exemple, dans un blog du Monde Diplomatique hier signé Frédéric Lordon, selon laquelle, eh bien, finalement, il y aurait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen une réunion de la cause et des effets. Bref, qu'on ne pourrait pas choisir entre un néolibéralisme qui produirait une montée de l'extrémisme et qu'il n'y aurait donc pas à se déplacer. Votre réaction par rapport à cette analyse, Laurent Bouvet ?
Alors, c'est une analyse qu'on voit depuis un certain temps se développer, effectivement, dans le débat public, avec une version aussi qui est de dire Emmanuel Macron maintenant, c'est Marine Le Pen dans 5 ans. Avec effectivement cet effet,
c'est ce qui contribuerait à
cette mécanique.
Tandis qu'il fait barrage, voilà. Le niveau monte.
Alors il y a un problème simple dans ce genre de considération, c'est précisément l'aspect mécanique. En politique, il n'y a pas de mécanique. C'est-à-dire que l'élection d'un Emmanuel Macron aujourd'hui ne dit jamais, ne peut jamais dire ce que dans 5 ans. Sera une élection présidentielle. Je crois que là, c'est une faute de raisonnement absolument considérable et qu'on est davantage dans des considérations idéologiques que dans des considérations sur la réalité. On est davantage dans le ciel des idées et la vérité chez Platon que chez Aristote et le réel. Or, la politique, c'est davantage du réel que simplement de la vérité révélée par on ne sait qui. Alors, des prophètes, ça peut être un Frédéric Lordon, qui aime bien le caractère prophétique, mais en politique, on est dans un réel. La question qui se pose derrière, qui est aussi tout aussi sérieuse, c'est effectivement que les causes ont des conséquences. Oui, ça c'est sûr. Et c'est-à-dire que, effectivement, depuis des années, le fait de ne pas combattre le Front National sur le terrain que lui a choisi pour décaler, on en parlait à l'instant, le propos du débat, s'approprier le souverainisme, s'approprier le général de Gaulle, aller chercher Jaurès, etc. Ne pas avoir, notamment à gauche, on parlait de la gauche à l'instant avec Véronique Naumgrave, ne pas avoir résister sur ce terrain et contester l'appropriation de l'idée d'identité collective, d'identité nationale, de l'idée de nation, de l'idée républicaine, même de l'idée de laïcité au Front National qui se les est approprié pour déstabiliser le terrain, déstabiliser ses adversaires contre sa propre histoire de l'extrême droite, contre son propre héritage, avec encore des difficultés d'ailleurs en interne. Et le fait que Marine Le Pen ne soit pas tout à fait convaincante, pour dire le moins, c'est aussi du fait de ses contradictions, parce qu'elle a à gérer un Front National qui n'est pas un bloc uni derrière elle, selon une doctrine complètement acceptée, etc. On sait bien les difficultés avec son père d'un côté, avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen de l'autre, sur un certain nombre de thèmes. Donc là, pourquoi le Front National monte ? Pourquoi on se retrouve ? Moi, j'avais forgé ce petit gimmick, la gauche castor, qui n'a plus qu'une solution, c'est de faire barrage au dernier moment. Alors, tout le monde fait barrage, construit des barrages. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas son travail en amont. C'est pas le problème de faire barrage. Évidemment qu'il faut faire barrage à un moment donné s'il y a le Front National qui arrive, c'est pas la question. C'est qu'elle ne construit pas en amont les moyens de ne pas avoir à faire barrage au dernier moment. C'est ça la gauche castor. Et là, on a quelque chose, on a un défaut. Si ce que dit Frédéric Lordon s'applique... au milieu politique, je pense qu'il considère que Emmanuel Macron n'est pas de gauche, mais peu importe. Si ça s'applique, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut prendre ses responsabilités. Le fait de laisser le Front National dériver, le fait de l'avoir laissé partir seul sur un certain nombre de thèmes, en se disant de toute façon, ces gens qui votent pour le Front National, ce sont des beaufs racistes, ils ne comprennent pas, on n'a pas à s'occuper d'eux, on n'a pas à s'intéresser à eux, etc. Ça fait aujourd'hui aussi une France coupée et divisée qu'on a vue dans les cartes du premier tour.
Véronique Naumgrave.
Il me semble qu'avec le Nini, on assiste aussi à une espèce de rééquilibrage d'équivalence qui tout simplement est faux. Exemple, j'ai vu dans un des panneaux de la manifestation, mieux vaut la guerre civile que la guerre sociale. Alors, Mais quelle belle maxime, mais que c'est exaltant. Donc la guerre civile, courageuse, avec du sang sur le pavé, etc. Et la guerre sociale de Macron, où l'ouvrier, Gervaise, etc., où l'ouvrier est opprimé. Sauf que l'utilisation du mot guerre ici est calamiteuse, parce que dans un cas, c'est une vraie guerre, et dans l'autre cas, c'est une métaphore, et je ne connais pas, à tous les niveaux économiques et sociaux, de groupes sociaux qui préféreraient, même à l'usine, même dans les quartiers, même dans les conditions les plus difficiles, même en prison, qui préféreraient une situation de vraie guerre. Et la situation de vraie guerre, donc, il y a une dissymétrie. Et cette dissymétrie, elle est forte du point de vue de la vie des gens. Ça veut dire que dans le Nini, et historiquement, ça a été calamiteux, donc je me permets de le souligner, donc c'était des choses historiques, il se trouve que toute une frange de, c'était le parti communiste, les militants qui se veulent purs et durs et révoltés, etc., quel que soit leur nom, ont toujours pensé que, et il y a comme une fatigue, le vieil ennemi, le fascisme, toujours le fascisme, CRSSS, toujours, le mot même a fatigué la pensée du XXe siècle. C'était devenu une injure automatique. Et donc, il y a une espèce d'ennui étrange. Et à côté, il y a le faux frère, il y a l'ennemi, le réformiste, le social-démocrate, d'autant plus dangereux qu'il avance masqué au bal des faux culs, excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais après tout, depuis hier, on peut se lâcher un peu. Et donc, si vous voulez... la haine historique qui a entraîné des abstentions au moment des élections d'Hitler, de Mussolini, et on pourrait faire l'histoire, on pourrait arriver jusqu'à l'abstention des Albanais du Kosovo au moment de Milosevic, qui aurait pu arrêter, qui aurait pu freiner juste sur les 5 ans. Alors on vous dit, demain vous allez sauter dans l'abîme ou dans 5 ans, demain vous aurez le cancer en phase terminale ou dans 5 ans. Dans 5 ans, s'il vous plaît, dans 5 ans, monsieur Lordon, dans 5 ans.
Laurent Bouvet, il y a quand même une sorte de conséquence dans ce discours du Nini, une conséquence dans le refus de la gauche, alors je ne sais pas où est-ce que vous vous situerez par rapport à ça, et dans le refus d'une forme de libéralisme qu'incarnerait Emmanuel Macron, et donc en quelque sorte de superposition du libéralisme à une forme de populisme extrême. Alors ensuite, j'aimerais pas faire de réduction ad hitlérum et de considérer que pour cette partie de la gauche, le libéralisme se vaut avec l'extrême droite, mais enfin, il y a une forme de continuité.
Il y en a qui n'existent, certains n'hésitent pas à parler de fascisme libéral, donc on est en plein dans le sujet de ce qui vient d'être dit aussi parfaitement sur le Nini, c'est-à-dire que il y a là un faux parallélisme des formes qui effectivement est destructeur historiquement, on l'a bien dit à l'instant, il y a une histoire de cela, une histoire du refus de la gauche de considérer qu'il y avait d'une partie de la gauche, pardon, de considérer qu'il y avait une différence entre les fascistes et les capitalistes, les libéraux. Et sur cette question du libéralisme, c'est quand même un aspect, on ne va pas rentrer dans le détail sur est-ce que le programme d'Emmanuel Macron est du néolibéralisme, etc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et nationaliser l'UNEDIC ou rembourser à 100% les lunettes ou les prothèses auditives, je n'arrive pas à considérer que c'est néolibéral. Mais peu importe, on pourrait effectivement, sur des aspects code du travail, il y a effectivement davantage de libéralisme. Donc on pourrait discuter. Mais c'est pas la question. C'est aussi un problème d'un paradoxe au sein de la gauche sur cette question du libéralisme. Parce que l'antilibéralisme démontré à force de, comme on vient de le voir avec Frédéric Lordon, etc., jusqu'à l'équivalence au fascisme, c'est quelque chose qui s'applique à l'économie. C'est la critique du capitalisme et la critique du marché. Mais sur beaucoup d'aspects, il y a cette idée qu'on va jeter le bébé des libertés publiques, le bébé du cadre de la démocratie libérale, ça a été bien dit par Véronique Naumgrab tout à l'heure sur la guerre civile, on va jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'avec le capitalisme, avec le système du marché, etc., on est prêt à sacrifier une partie de nos droits, on est prêt à se dire que finalement le cadre dans lequel on peut mener le débat, on peut mener la grève, on peut mener la confrontation sociale, ce cadre-là, lui-même, on risque de le faire tomber. Et c'est ce risque qui est là, dans cette équivalence, qui est inacceptable.
Un mot de conclusion, Véronique Naumgrab.
Oui, je dirais que ce qu'on constate au lendemain, mettons, de l'arrivée au pouvoir d'un parti qui veut abîmer la démocratie, le lendemain, toute l'atmosphère change dans les rues. Exemple, la police que je respecte et qui est de famille politique mélangée. On constate, la police et l'armée, qu'il y a beaucoup de militants du Front National. C'est ceux-là qui feront carrière. C'est ceux-là qui, dans les quartiers, pourront faire des exactions, qui tomberont dans l'impunité. Et si vous voulez, le lendemain, lendemain, non seulement l'atmosphère, et après dans les quelques mois, purge et répression. Autrement dit, on met sur le même plan un système où, bien sûr, on n'est pas au paradis, mais on peut travailler. Les fenêtres sont ouvertes, comme disait Stefan Zweig en 1939, la social-démocratie. Les fenêtres de l'action sont un peu ouvertes, avec un système où elles seront fermées, où tout sera bloqué. Et pour longtemps, parce que quand ça s'installe, c'est pour longtemps.
Merci à tous les deux, Véronique Naoum, Laurent Bouvet.